Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Dmoundi.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Quelles sont les causes de l'insécurité au centre du Mali? Les mesures prises sont-elles à la hauteur des défis? Quelle utilité des différentes rencontres sur la paix et la réconciliation? Le forum de Niono qui a débuté ce matin va-t-il changer quelque chose? Ce sont entre autres questions que les Maliens se posent aujourd'hui et nous avons trois invités pour y répondre. Niagalim Bagayogo, politologue, présidente de l'African Security Sector Network, Madame Nahawa Doumbia et Daouda Kinda qui sont tous les deux spécialiste des questions sécuritaires. Je suis Mohamedou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Plusieurs morts ont été enregistrées cette semaine encore à travers le pays. Quelles sont les causes de cette insécurité que vit le Mali? Niagalim Bagayogo, avez-vous une idée des causes de cette insécurité dans le pays?
Bonsoir. Je pense qu'il est extrêmement important avant tout de considérer que les causes de l'insécurité au Mali et dans le Sahel plus généralement sont multiformes. Il est, à mon avis, très difficile d'avoir des explications monocausales de la situation actuelle, qui est à la fois caractérisée par des violences qui émanent en effet de groupes djihadistes, mais qui eux-mêmes ne se réfèrent pas ni aux mêmes rhétoriques, ni aux mêmes méthodes. Elles émanent également ces violences d'acteurs communautaires, notamment qui s'affrontent dans le cadre de groupes d'autodéfense ou de milices communautarisées. Elles émanent également de groupes ou d'individus armés non identifiés qui se livrent à des activités criminelles et violentes et s'attaquent non seulement aux personnes mais également à leurs biens. Et ces violences peuvent également parfois émaner de certains éléments ou de certaines unités des forces de défense et de sécurité. Mais dans tous les cas, on s'aperçoit que ce sont malheureusement avant tout les civils qui sont les premières victimes de l'ensemble de ces violences.
Et cette semaine, il y a eu plus de 10 morts qui ont été enregistrés à travers le pays. On va écouter ce reportage de Ousmane Niali Bouli sur la question.
Le bus de transport commun s'est produit hier soir entre les localités de Parou et Songobia dans les cercles de Bantiagara. Selon des sources locales, 8 civils sont morts sur place et 8 autres blessés. Parmi les victimes figurent des femmes et des enfants. Les mêmes sources indiquent que le chauffeur et d'autres passagers du véhicule sont portés disparus. Les blessés ont reçu les premiers soins à l'hôpital de Bantiagara avant d'être transportés à Sévaré, déclarent les autorités locales. À la veille de cette attaque, l'imam d'Indébougou dans les cercles de Niono, région de Ségou a été tué, c'est lui, lundi dernier par des hommes armés non identifiés. Quelques heures auparavant, dans la même journée, un commerçant avait également été assassiné à Bessin Kimedili-Koura dans la commune de Touridagako, toujours dans le même cercle, affirme un élu local. Ces localités sont situées à une soixantaine de kilomètres de Farabougou, localité encerclée depuis près de mois par des présumés djihadistes, malgré la présence des forces armées maliennes dans la zone depuis quelques jours. Ces attaques interviennent quelques heures après l'annonce de la neutralisation d'une cinquantaine de terroristes par la force Barkhane vers la frontière Mali-Burkina. Cette information a été donnée par la ministre française de l'armée Florence Parly au cours de sa visite au Mali le lundi dernier.
Daouda Kinda, bonsoir. On parlait tout de suite des causes de cette insécurité. Des morts sont enregistrées cette semaine encore, notamment dans le centre du pays. Quelle est votre analyse sur la question?
Je vous remercie. L'analyse sur la question, c'est qu'elle ne peut qu'être globale. Parce que depuis 2012, l'explosion de la crise multidimensionnelle, je crois que le Mali est en... Il y a une sorte de connexion entre l'insécurité au Mali et l'insécurité dans le Sahel en général, notamment le cas de la Libye. On a pu analyser que chaque fois que ces foyers de tension sont en effervescence, c'est que la situation au Mali ici se désagrège beaucoup. Il faudrait le voir sous beaucoup d'encre, parce que les groupuscules armés qui sont au Mali ici, ils ont beaucoup de tentacules qui montent jusqu'au fin fond du Moyen-Orient. Donc cette analyse globale, je crois que ça manque beaucoup à nos autorités et il ne faudrait pas l'oublier.
Votre point de vue sur les causes de cette insécurité, Madame Nahawa Doumbia?
Mahawa. Ok, Doumbia. D'accord. Merci beaucoup, Mahamadou, pour cette question. Et moi, je dirais que les causes aujourd'hui pour l'insécurité au Mali, les causes sont nombreuses, mais il faut noter que aujourd'hui, nous assistons à beaucoup d'attaques. Beaucoup d'attaques au niveau, que ce soit au nord, centre ou au sud du Mali. Les attaques maintenant deviennent perpétuelles partout dans le Mali. Et on peut noter également les conflits intercommunautaires qui se manifestent aujourd'hui par des barbaries, si je peux me le permettre. Ça se manifeste vraiment avec plus de violence que l'on croyait avant. Et aussi, on peut noter la faible représentativité de l'État sur certaines zones au Mali, surtout celles frontalières entre le Mali et Niger, entre le Mali et Burkina ou d'autres pays. Et nul n'est sans savoir qu'aujourd'hui, au Mali, des questions d'ALPC sont devenus des problèmes cruciaux qu'il faut faire face à cela, parce que qui parle de conflits armés, on parle obligatoirement des armes, des munitions et consorts. Et si les frontières sont poreuses jusqu'à nos jours, difficilement on pourra avoir une solution idoine à notre problème. Et aussi je pense que dans beaucoup de zones au Mali, précisément au centre, le règlement de compte est devenu quelque chose de, je dirais, naturel pour la population. Alors je pense que ces genres de mécanismes et ces genres de problèmes vraiment sont des causes qu'il faut s'attaquer rapidement pour pouvoir une solution à beaucoup de nos problèmes d'insécurité. Oui.
Terrorisme, conflits intercommunautaires, banditisme, règlement de compte, ce sont entre autres sujets que vous avez abordés qui peuvent être les causes de cette insécurité dans le pays. Alors, Niaralem Bagayogo, avez-vous l'impression que les autorités, notamment du Mali, ont compris ces différentes causes de cette insécurité?
Je pense qu'il y a bien sûr une conscience du caractère multidimensionnel de l'insécurité qui touche actuellement le Mali. Mais il me semble que les autorités, aussi bien que leurs partenaires internationaux, gagneraient sans doute à mener une analyse beaucoup plus ciblée de chaque phénomène de violence. C'est-à-dire que, bien entendu, les causes des conflits intercommunautaires ne sont pas nécessairement les mêmes que celles qui sont à la racine des actes criminels. Pour ce qui est notamment de ces conflits intercommunautaires, on sait très bien que très souvent, les affrontements pour la gestion et l'exploitation des ressources naturelles en sont à l'origine et que souvent, les acteurs agricoles s'opposent aux acteurs pastoraux. Et le règlement de ce type de conflit ne relève bien entendu pas du même type d'acteurs étatiques ou non étatiques. Dans un certain cas, on recourra davantage au ministère chargé de la décentralisation, par exemple. La lutte contre la criminalité implique davantage le ministère de la sécurité. La lutte contre les acteurs terroristes implique à la fois les acteurs militaires, mais sans doute aussi les acteurs de la chaîne de renseignement, les acteurs de la chaîne pénale. Donc, il me semble qu'il est important de serrer les différentes manifestations de la violence pour, en effet, en établir les causes et surtout pour identifier les mécanismes de gestion, de résolution ou encore mieux de prévention des conflits qui seront les plus efficaces pour faire face à chaque type d'insécurité.
Quand on voit l'évolution de la situation, pensez-vous que les forces armées maliennes sont dépassées par la situation ?
Malheureusement, les forces maliennes ne sont pas les seules à être dépassées par la situation. On voit très bien que la situation aujourd'hui au Mali et au Sahel échappe à tous les acteurs en réalité, en tout cas à tous les acteurs qui ont mobilisé depuis 8 ans bientôt des solutions qui démontrent que les instruments ne sont plus nécessairement adaptés au type de violence auquel on a affaire. On voit très bien, par exemple, si on prend ne serait-ce que les acteurs au niveau de la sous-région, au niveau de la CDEAO, on voit très bien que le mécanisme de gestion, de prévention, de gestion, de règlement des conflits de 1999 n'a pas été en mesure d'apporter une réponse totalement satisfaisante à la crise malienne, tout simplement parce qu'il est fondé sur des conflits qui sont ceux des années 90 au Libéria, en Sierra Léone, en Guinée, en Côte d'Ivoire, qui n'ont absolument pas le même type de dynamique que celle qu'on voit aujourd'hui. On voit également que une mission de maintien de la paix comme la MINUSMA peine également à faire face à l'insécurité qui touche le pays. Il en va de même pour les missions de l'Union européenne, qu'il s'agisse de la mission EUTM, de la mission ECAP, dont on voit très bien que les entraînements n'ont pas suffi à renforcer de manière efficace le rôle des forces nationales en matière de lutte contre l'insécurité. Et enfin, bien entendu, les forces maliennes sont, comme les autres acteurs, aux prises avec un type de conflit qui leur échappe en partie.
Daouda Kinda, pensez-vous que les autorités maliennes aujourd'hui sont capables de faire face à cette insécurité ?
À l'impossible d'une tenue, on pourrait l'imaginer que d'une manière ou d'une autre, cela va de soi que le Mali puisse venir à bout de cette situation. Mais comme mes co-débatteurs viennent de le dire, les intervenants viennent de le dire, ça ne va pas se faire comme si avec une baguette magique. Portant sur la question de la prolifération des armes légères, moi je crois que c'est une donne essentielle à cette problématique, parce que là, le Mali avait mis un accent sur la lutte contre la prolifération des armes légères. Je m'en souviens que, il faut pas l'oublier, c'était une institution quasiment logée à la présidence, qui avait une importance énorme, mais qui, de par sa gestion qui était entre guillemets trop militarisée, a pêché un peu. Donc, cette situation au Mali, ça ne va pas seulement se régler avec l'option militaire, cela va de soi. Il va falloir que ce qui se trouve être la mauvaise gouvernance, parce que dans l'armée, tout ce qui est problématique, c'est la mauvaise gouvernance. C'est vrai, le pays a besoin d'armement, le pays a besoin d'hommes, de munitions et autres, mais sans cette gouvernance qui va mettre le soldat au milieu de cette stratégie de lutte contre le groupuscule armé, je crois qu'on aurait beau faire, ça n'ira pas loin.
Est-ce que vous pensez qu'avec cette présence des forces armées maliennes, notamment dans le gouvernement, avec les portefeuilles de la défense qui sont gérés par des militaires, quelque chose va changer de positif par rapport à la résolution de cette crise ?
J'en doute fort, parce qu'au Mali, il ne faut pas l'oublier, le Mali, c'est un pays qui où il y a une sorte d'imbrication entre le militaire et le politique. Et cela n'a pas commencé dès maintenant. Depuis les premiers régimes, en 1960 déjà, le problème du nord du Mali était pris à bras le corps par essentiellement des militaires. Le régime de Moussa Traoré aussi avait complètement militarisé le problème du nord. C'est pas seulement le problème du nord auquel on a à faire face. Mais il faudrait pas l'oublier, à chaque fois que le militaire a endossé les tenues de la politique, il y a une sorte de cafouage, parce que il n'est pas anodin qu'on puisse dire que tous les gouvernements doivent être essentiellement civils. C'est que c'est le le politique qui organise les directions et c'est les militaires qui doivent les exécuter. Et ce serait un peu iconoclaste que ces deux tendances se confondent en une seule.
Je mets entre guillemets leur maîtrise du terrain qui est citée par certains, qui est saluée par certains observateurs également. Est-ce que vous pensez que cette maîtrise du terrain de forces armées maliennes, des militaires qui occupent certains postes ministériels aujourd'hui, pourrait être en plus?
Oui, il y a beaucoup d'entre eux ont eu à occuper des postes de responsabilité en ce qui concerne l'éclatement de la crise depuis 2012. Mais il ne faudrait pas l'oublier que c'est seulement une frange, c'est seulement une force spéciale qui était logée au sein de toute une armée. Comme on l'a eu à le dire, ce problème ne dépend pas seulement d'un seul corps. C'est un problème qui intéresse non seulement le ministère de la Sécurité, ça intéresse aussi l'armée en tant que telle, mais il ne faudrait pas qu'on puisse étendre de façon exponentielle, du coup, à faire une généralisation, comme quoi ils pourront facilement indiquer ce problème.
Êtes-vous plus optimiste ou aussi pessimiste que Daouda Kinda par rapport à cette capacité des autorités maliennes à gérer cette crise?
Oui, moi, je dirais que je suis optimiste parce que aujourd'hui, la sécurité des populations et la sécurité humaine a dépassé vraiment le droit régalien des forces de défense et de sécurité. Et moi, je pense que si aujourd'hui chacun de nous se met dans cette chemise ou bien dans cette position vraiment on doit automatiquement accélérer une réforme du secteur de la sécurité inclusive.
Chacun de nous, là, il s'agit de tous les acteurs, mais quand il s'agit des autorités en charge de la transition, est-ce que vous avez confiance?
Oui, ces autorités ne peuvent pas, comme on appelle, atteindre l'objectif collectif du Mali sans pourtant qu'il y ait l'appui de la population. Nous sommes ensemble, nous sommes une force. C'est dans ce cadre que je suis optimiste, parce que nous savons le problème, l'autre là, comme on appelle, Niagale disait toujours tout de suite, ce problème, c'est une crise multidimensionnelle. Et qui parle de multidimensionnel parle forcément des complexités dans la résolution du problème. Et alors, on sent vraiment une faiblesse. Il faut le dire, il faut appeler les choses par les noms. On sent déjà une faiblesse. Seul l'État...
Une faiblesse de qui?
Des
autorités.
Des autorités. Oui, parce que le problème dépasse vraiment tout le monde. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Le problème dépasse tout le monde, raison pour laquelle on cherche des solutions partout. Et comment on appelle, l'effort de chacun de nous est important pour la chose. Et je pense, avec nos pierres contributives aux efforts de l'État, je pense que moi, quand même, personnellement, je peux rester optimiste pour les bonnes causes du Mali.
Niagale Bagayogo, Daouda Kinda craint un cafouillage avec la présence des militaires. Est-ce que vous craignez la même chose?
Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de voir ce qui a amené les militaires au pouvoir, c'est-à-dire en réalité une très grave crise, très profonde en matière de gouvernance, en ce sens que c'est un modèle d'État qui a été fondamentalement remis en cause et rejeté dans la rue à travers les manifestations qui ont commencé à partir du 5 juin. Un État, un régime d'abord, mais plus largement, une façon de gouverner, puisque les populations ont massivement considéré que l'État avait échoué en matière de sécurité, bien entendu, mais également en matière de démocratisation, puisqu'on a vu la crise post-électorale, en matière d'éducation. On connaît très bien les problèmes que traverse l'université avec la grève des enseignants qui dure depuis des mois, voire des années. En matière d'urbanisation, en matière de décentralisation, puisque de nombreuses protestations et rébellions se sont justement levées pour protester contre l'abandon de pans entiers du territoire national depuis des décennies. En réalité, ce à quoi on assiste, c'est à des mouvements insurrectionnels, que ceux-ci se manifestent à travers des rébellions armées, comme on l'a vu au Nord Mali, à travers des rébellions de type djihadiste ou à travers des insurrections de type populaire. On est dans un contexte insurrectionnel de remise en cause d'un modèle d'État et de sa gouvernance. Donc aujourd'hui, l'immense défi auquel doivent répondre les nouvelles autorités civiles et militaires, puisque on n'a plus seulement affaire à une junte hein, depuis l'arrivée du président de la transition et du premier ministre ainsi que de son gouvernement. L'enjeu majeur, à mon avis, est celui de répondre à cette crise de gouvernance en commençant à lutter contre les détournements, la corruption qui est vraiment au cœur de nombreuses accusations et protestations aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que s'il y a un domaine où les nouvelles autorités sont attendues, ce n'est pas seulement le domaine sécuritaire, mais c'est aussi celui de la gouvernance. Et le lien entre les deux est très facile à établir lorsqu'on connaît les détournements qui ont été dénoncés dans le domaine de la défense dès 2014 par les rapports du Bureau du vérificateur général.
Daouda Kinda, les mesures prises pour faire face à cette insécurité sont-elles à la hauteur des défis selon vous ?
Les mesures pêche beaucoup, raison pour laquelle on est face à ce problème qui est en train de s'envenimer. Ça pêche beaucoup parce que là, comme on l'a dit, à risque de se répéter, il y a cette dimension multiforme qui n'est pas prise en compte assez.
Pourquoi n'est-elle pas prise en compte ? Est-ce que c'est parce que c'est négligé ou est-ce que c'est parce que les autorités manquent de moyens pour y faire face ?
Des deux côtés, je crois qu'il y a un peu de tout. Parce que là, comme on l'a dit, l'aménagement, c'est quelque chose, c'est un accompagnement international. Comme l'a dit Mme Bagayogo tout à l'heure, au début, ils n'étaient pas tout à fait au fait des choses. Parce que le phénomène djihadiste, de par le monde, on l'a eu à le voir. Même la plus grande puissance militaire n'arrive pas à y faire face convenablement. Le cas afghan est là, le cas irakien est là. Et moi, je crois que c'est surtout des efforts locaux qui peuvent être salutaires dans ce sens. Mais il ne faudrait pas l'oublier, nous sommes un pays pauvre, le moyen manque. Donc cet accompagnement international doit passer par des canaux qui sont essentiellement locaux. Par exemple, le problème des tensions ethniques, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des temps immémoriaux. Ce serait difficile qu'un État, avec tout cet appareil administratif lourd, puisse venir sur ces terrains pour pouvoir imposer quelque chose. Ça a été notre problème depuis, je me souviens du temps des années 90, on a organisé des flammes de la paix, des semblants de réconciliation qui ont abouti à la situation actuelle. Je crois que le problème a été toujours traité de façon superficielle. C'est vrai, le Mali était seul en ce moment. Mais avec l'appui de la communauté internationale, je crois qu'on doit y aller de fond. Mais concernant la junte, moi je crois que ce qui est là comme étant question brûlante pour la junte, c'est surtout l'accompagnement de la sous-région. Parce que le Mali ne peut pas s'extirper de ce problème sans l'accompagnement de la CEDEAO. Et on peut monter jusqu'au niveau de l'Union africaine. Il faudrait qu'il y ait un instrument, si je peux dire, continental en matière de paix et de sécurité qui puisse être efficace et pratique.
Le G5 Sahel ne suffit-elle pas à la force ?
Le G5 Sahel, ne serait-ce que l'absence de l'Algérie qui est un poids non négligeable, et la Côte d'Ivoire et d'autres pays, parce que là, la question, elle n'est pas que malienne, elle est sous-régionale, ne serait-ce que la transhumance des armes à feu et si je peux dire, du crime organisé. Je crois que le G5 Sahel, à lui seul, est limité de façon géographique. Donc, il va falloir qu'il y ait sorte d'accompagnement notoire. Parce que les foyers de tension en Afrique, ça se multiplie. Il ne faut pas l'oublier, Al-Shabaab a du vent en poupe. Le problème centrafricain est toujours ouvert. Tant qu'il y a ce cercle-là, si je peux dire le triangle de feu dont certains spécialistes l'ont appelé, ce serait difficile de maîtriser le Sahel. Donc, avec tout ce désavantage géographique et climatique qu'il y a au Sahel, je crois que on va faire du bric-à-broc, mais on ne va pas avancer beaucoup.
Le citoyen lambda se pose souvent une question. Pourquoi, avec la présence des forces armées maliennes, de la force G5 Sahel, de Barkhane, de l'aménagement et d'autres forces, le Mali n'arrive pas toujours à faire face à cette insécurité? Alors, quelle est l'utilité de toutes ces forces dans le pays, selon vous?
Je pense que ces forces étrangères qui sont aux côtés de l'État malien pour la solution de ce problème d'insécurité est énorme. Aujourd'hui, si on me pose cette question, très souvent, moi je renvoie la question en disant, imaginons s'il n'était pas là. Et qu'est-ce qui allait se produire comme conséquence? Et aujourd'hui, on peut vraiment avoir cette, comment on appelle...
Pensez-vous que la collaboration entre ces différentes forces, elle est franche?
Oui, bon, la collaboration, être franc dans la collaboration, c'est un peu difficile parce que... Moi, je dirais que c'est la coordination qui manque un peu entre ces forces de défense et de sécurité et ces forces étrangères qui sont auprès du Mali. Parce que qu'est-ce qu'on remarque de 2012 à nos jours, si on regarde bien l'arrivée de l'AMINUSMA, de l'ECAP Sahel, certes, quand je prends l'exemple tout de suite sur l'ECAP Sahel, ECAP Sahel a fait beaucoup de formations à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité. Et ces formations, c'est juste les techniques, le respect des...
Est-ce que le domaine des renseignements est pris en compte dans cette collaboration?
Bon, ça, c'est la question que moi-même je me pose.
On va l'adresser donc à...
Sinon, aujourd'hui, quand on regarde la situation de... On va en venir la situation actuelle
Farabougou.
À Farabougou.
On va y revenir tout à l'heure. On pose cette question seulement à Niagalim Bagayogo. Niagalim Bagayogo, pensez-vous que c'est la coordination ou la collaboration elle-même entre les différentes forces présentes au Mali qui n'est pas franche?
Moi, je pense que d'une manière générale, malgré le nombre important de forces présentes, on voit très bien que la question qui se pose en réalité est celle de leur mission. Quel est l'objectif poursuivi par ces différentes forces? Alors, je mettrai à part le cas de la MINUSMA, dont le mandat est de accompagner la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et également de assurer la protection des civils. Mais la plupart des autres forces déployées, que ce soit l'opération Barkhane ou les forces du G5 Sahel, et bien entendu les autorités, se sont fixées pour principal mandat et poursuivent l'objectif majeur de lutter contre le terrorisme. Or, aujourd'hui, on voit bien que cette problématique terroriste, elle existe, bien entendu. Il ne s'agit en aucun cas de nier cela, mais en réalité, il ne s'agit que d'un seul pan de l'insécurité. Donc, à mon avis, aujourd'hui, changer l'objectif et le mandat de ces différentes forces pour le recentrer sur une mission beaucoup plus générale de protection des civils, quel que soit le type de violence auquel les populations sont confrontées, changerait la donne. Pour ce qui est, par ailleurs, de cette question de la collaboration franche, là aussi, se pose la question, en réalité, des objectifs politiques qui sont poursuivis à travers ces différentes interventions. Or, on voit que certains acteurs refusent d'inscrire leur intervention dans le cadre d'une démarche véritablement politique et préfèrent la concentrer sur des objectifs tactiques ou stratégiques de lutte contre le terrorisme ou de rétablissement de l'autorité de l'État. Mais on voit bien que cela pose un problème dans la mesure où c'est précisément cet État qui est contesté et perçu comme prédateur qui est à l'origine d'un certain nombre de crises que nous avons décrites tous depuis le début de cette émission. Et on voit bien qu'une approche politique est en revanche promue par certains acteurs, à commencer par les autorités maliennes, et non pas seulement depuis l'arrivée au pouvoir de ces autorités civiles et militaires, mais de manière plus ancienne par le régime précédent d'Ibrahim Boubacar Keïta, pardon.
Justement, Madame Bagayogo. Beka,
qui lui-même se référait aux décisions du dialogue national inclusif. Et on voit très bien que ces décisions sont également reprises dans la feuille de route de la transition qui préconise un dialogue avec notamment les groupes armés radicaux.
Oui, concernant les missions des forces étrangères, pensez-vous que le Mali, les autorités maliennes ont leur mot à dire par rapport au choix de ces missions-là?
Alors, je ne sais pas si elles ont leur mot à dire, mais en tout cas, elles doivent avoir.
Parce que si elles l'ont, la question qui se pose, c'est est-ce que l'État malien négocie mal l'intervention de ces différentes forces internationales?
Alors, je pense que c'est une question particulièrement pertinente et particulièrement sensible. Mais moi, il me semble évident que c'est avant tout aux autorités maliennes de définir le cadre politique dans lequel doivent s'inscrire l'ensemble des interventions qui se situent sur son territoire. D'ailleurs, la plupart des partenaires internationaux ne peuvent être présents au Mali que parce qu'ils ont été à l'origine appelé par les autorités maliennes en 2012, alors des autorités de transition, certes, mais ces appels ont été réitérés depuis. Aujourd'hui, il est certain qu'il y a une nécessité de mettre en cohérence les objectifs poursuivis, d'une part, d'un point de vue politique par les autorités maliennes et d'autre part par les partenaires internationaux. Et l'échange qui s'est produit lors de la visite du ministre français des Affaires étrangères avec le Premier ministre Mokhtar Ouane à propos de la question du dialogue avec certains leaders de groupes armés est à mon avis particulièrement éloquente de ce point de vue-là.
Et c'est dans ce contexte qu'un forum de 4 jours sur la réconciliation à Niono a démarré aujourd'hui, une réconciliation entre les communautés en conflit. Le gouverneur de la région de Ségou, je rappelle que Niono fait partie de la région de Ségou, dit déjà être sceptique par rapport à l'issue de ces concertations. Le point avec Imran Akidoumaïga.
Cette rencontre n'a pas été sérieusement préparée, déclarent les autorités régionales de Ségou. J'en avais envisagé avant la fin de l'année, mais si ça intervient tôt comme ça, on va tenter de le faire, explique le contrôleur général de la police Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Ces concertations communautaires ont pour but de parvenir à une paix durable dans la zone, souligne l'autorité régionale. Toutefois, le gouverneur précise qu'à ce stade, aucun thème n'a été défini pour ces assises. Nous allons tenter de réconcilier les chasseurs d'Onso et Peuls du cercle en conflit dans la zone depuis plus d'un mois, poursuit l'autorité régionale. Selon elle, chaque représentant des communautés aura la parole et un timing sera fixé pour chaque intervention. À la fin des dialogues, une synthèse générale sera dégagée, explique-t-elle. Les représentants de l'État vont intervenir également au cours des assises, affirme le gouverneur. Pour la sécurité des participants, l'armée a été déjà déployée à Djabali. Elle est renforcée par une brigade de la gendarmerie et d'autres forces, rassure l'exécutif régional. Ces concertations se poursuivront jusqu'au 9 novembre prochain. Elles interviennent au moment où la situation sécuritaire dans le cercle de Niono reste préoccupante. À Farabougou, les habitants restent bloqués dans leur zone à cause de la présence des djihadistes. L'imam du village de Indebougou aussi a été tué par des hommes armés non identifiés le 2 novembre dernier.
Daouda Kinda, avez-vous l'impression que les différentes rencontres aujourd'hui qui sont organisées en faveur de la paix et la réconciliation sont utiles pour le Mali?
C'est obligé qu'on puisse aller vers le dialogue, mais il faudrait que le format, le cadre de ce dialogue soit bien défini. Je crois que le gouvernement, les autorités sont en train de pêcher une deuxième fois. Le cas du DNI... Dialogue national inclusif n'a pas été totalement légitime parce que le processus d'instauration, si je peux dire, d'organisation de ce dialogue a été décrié. Parce que là, il faut pas que l'État agisse en termes d'imposition. Il faudrait que les formats de dialogue soient aussi inclusifs que le contenu. Le cas de Nyono, je crois que la sortie du gouverneur, ça va un peu à l'encontre de cette dynamique qui est entamée par l'État. On pouvait prendre cette rencontre comme étant un préalable. Cela n'est pas exclu. Parce que ce qui est important de noter, c'est que la situation humanitaire, notamment dans le cercle, dans la région de Ségou, est complètement hors de contrôle. Farabougou, c'est vrai, c'est 3000 habitants qui sont pris en otage. Ce n'est pas seulement Farabougou, il y a beaucoup d'autres villages qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il ne faut pas oublier qu'on est à la période des récoltes. La période des récoltes va bientôt arriver. Ces gens ont à peine ils peuvent à peine sortir pour aller au champ. Donc, cette situation, est-ce que ce serait... je me demande, est-ce que c'est intelligent ou du moins ce serait fructueux d'instaurer un dialogue à cette période. Moi, je crois que l'essentiel actuellement, c'est que l'armée puisse... C'est là le côté militaire de la chose. L'armée doit montrer à la population cette rassurance qu'elle n'en a pas. C'est vrai, il y a des forces de l'ordre sur le terrain, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant dans ce sens que beaucoup de gens qui sont partie prenante dans ce dialogue ne sont pas du tout chauds pour le faire.
Une rencontre qui n'a pas sérieusement été bien préparée selon l'autorité régionale, et encore, il estime que pour une rencontre de 4 jours qui devrait permettre de réconcilier des communautés en conflit, il n'y a pas un thème choisi. Pensez-vous qu'il a raison, lui, gouverneur de la région de Ségou, d'être sceptique par rapport à l'issue de ces assises?
Moi, je crois que lui, il est la toute première autorité dans la région. Je ne crois pas que ça soit du tout, si je peux dire, compréhensible que lui puisse s'exprimer dans ce sens. Je crois que le thème, s'il y a lieu de choisir un thème, la toute première responsabilité relève de son département. Donc, je crois qu'il se tire une balle dans le pied actuellement. Je crois qu'il va falloir hâter un peu les choses parce que le gouvernement, la jeune...
A-t-on l'impression que c'est lui qui a préparé cette rencontre parce qu'il dit qu'il avait envisagé d'organiser des rencontres, mais celle-ci est arrivée plus tôt que prévu?
Oui, parce que cela est un engouement qui a été instauré par certaines franges de la population de Nyono. Moi, je crois que le rôle de l'État aussi, c'est d'accompagner un peu ces genres de mouvements populaires. C'est des localités, des notables de ces endroits qui ont initié cette idée. Moi, je crois que la moindre des choses pour lui, ça aurait été de les accompagner. De les accompagner en ce sens que l'organisation matérielle, et si on peut dire le manque de thèmes, les thématiques, c'était à lui, je crois. Je crois qu'il y a un manque de coordination. Bamako n'était pas, si je peux dire, suffisamment imprégné de la chose pour pouvoir, si je peux dire, débloquer les fonds nécessaires pour pouvoir faire une organisation salutaire.
Doumbia, quand vous faites une analyse sur le déroulement de ce forum qui a démarré aujourd'hui, cette intervention du gouverneur de la région de Ségou, qu'est-ce que la fin de cette rencontre vous inspire? Est-ce que vous êtes optimiste?
Bon, pour le moment, avec la situation que traverse le pays, je pense que, certes, la situation, tout le monde aujourd'hui a hâte de voir, de percer ce Mali comme un havre de paix aujourd'hui. Mais je pense que dans les résolutions, on doit être cohérent dans les organisations des activités. Alors, si on regarde aujourd'hui ce forum qui a débuté ce matin, bon, aujourd'hui, c'est dit dans l'agenda que c'est ce matin, mais on a compris vraiment que les choses ont commencé jusqu'à vers les 15 heures de la journée. Et alors, si on se réfère sur la salle du forum, de plus de 100 personnes qui participent à un forum où on a tous les textes aujourd'hui au Mali qui parlent tout le temps de l'inclusivité dans la consolidation, dans le maintien de la paix au Mali. Et il n'y avait que 4 femmes officiellement invitées pour prendre part à ce forum. Et alors, il y avait juste 6 femmes. Mais les deux autres, c'est l'une était de la presse et l'autre a voulu remplacer son chef étant empêché pour prendre part à l'activité. Et si les vrais acteurs ne sont pas impliqués dans la résolution, je pense qu'on va encore reculer. Et je pense qu'on peut, si les décideurs acceptent les erreurs et essayer de se pencher sur la résolution ou bien sur la réglementation de ces erreurs pour un intérêt commun, je pense que je resterai optimiste pour la situation.
Bagayogo, quelles sont les limites des multiples rencontres qui sont organisées en faveur de la paix au Mali, selon vous?
Je dirais qu'elles sont peut-être trop articulées autour d'un modèle de pensée et de structure inspirée par des cadres internationaux. Je pense que ce qui est important aujourd'hui est peut-être de sortir de cette logique de termes de référence, de recommandations opérationnelles, de monitoring et évaluation qui, en réalité, ont été des instruments mobilisés par les partenaires internationaux, mais dont la situation aujourd'hui démontre totalement l'absence de pertinence dans un très grand nombre de cas. Moi, il me semble que le fait de revenir à des mécanismes de concertation au niveau local est extrêmement positif et selon moi, il ne faut pas que les acteurs maliens se privent de l'inventivité à laquelle ils sont en droit de prétendre et qu'ils sont en droit de faire valoir de manière légitime et sans doute pertinente. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a en effet de nombreuses initiatives qui tâtonnent. Certaines sont organisées dans un cadre formel, d'autres dans des cadres informels. Mais je suis tout à fait d'accord avec mon collègue pour dire qu'à mon avis, c'est en effet du niveau local que viendront les solutions, tout simplement parce que les problématiques ne sont absolument pas les mêmes d'un endroit du territoire à un autre. Donc, moi, je pense que quel que soit le résultat de cette concertation organisée à Niono, même si elle échoue, je pense qu'il est très positif que les acteurs locaux se saisissent eux-mêmes de leur propre sécurité, de leur propre paix et des solutions
avec les groupes
qu'ils ont
d'autodéfense,
envie de voir mises en œuvre.
Avec les groupes d'autodéfense ?
Mais ça, ça fait effectivement partie des discussions. Moi, il me semble qu'il doit y avoir un critère absolument incontournable, c'est celui du respect de la dignité et de la vie des populations. Et que les acteurs qui se rendent coupables d'exactions envers ces populations, envers ces civils, devraient être exclus des discussions. Mais les mécanismes en tant que tels ne sont pas forcément à exclure dans la mesure où ils s'inscrivent dans le cadre du respect des droits les plus élémentaires de la personne.
Daouda Kinda, rapidement, pensez-vous que ce forum de Niono va changer quelque chose par rapport au conflit intercommunautaire à Niono?
À défaut de changer quelque chose, je crois que c'est un pas énorme. Si je peux dire, ça peut servir de laboratoire parce que là, moi je vois un forum du genre dans le Liptako-Gourma, je vois un forum du genre dans le Septentrion malien. Donc je crois que ces genres d'initiatives, on ne va pas cesser de le répéter, ça va être porteux.
Rapidement, quelques secondes, pensez-vous également que ça pourra changer quelque chose?
Effectivement, si les acteurs qui sont là, s'ils se parlent franchement et mettre le Mali au devant de tout, je pense que ça va changer beaucoup de choses.
Merci à nos invités, Niagalem Bagayogo, politologue, présidente de l'African Security Sector Network, Madame Mahawa Doumbia et Daouda Kinda, qui sont tous les deux spécialistes des questions sécuritaires. Je suis Mohamedou Touré à la régie vidéo et audio, Salim Djouara, Seydoun Daoua et Peting Djara. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmouni.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.